laissé par Chaplin de ce que Marx avait écrit, mais des idées et qui s'en dégageaient. Je n'ai pas le monopole, je n'ai jamais pensé, peut-être quand j'avais 20 ans bien sûr, mais depuis longtemps, je n'ai jamais pensé que il suffit de se déclarer marxiste pour avoir raison. Et je parle, et j'ai parlé, commencé à parler rapidement, il y a longtemps maintenant, peut-être une quarantaine d'années au moins, des marxismes historiques, c'est-à-dire de la manière dont Marx a été compris, et à ce moment-là, il faut dire par qui, en quel lieu, à quel moment. Et ce qui m'intéresse, c'est pourquoi ont-ils pensé comme cela ? Pas étaient-ils déviationnistes par rapport à, au Marx vrai, mais pourquoi ont-ils compris ainsi ? Je crois que dans la pensée sociale, la pensée humaine d'une manière générale, et particulièrement la pensée sociale, qu'elle soit de gauche ou de droite, ou qu'elle soit marxiste ou pas marxiste, on doit se poser la question principale, c'est pourquoi les gens pensent comme cela ? Quelles sont les raisons ? Et l'étiquette, il représente tels intérêts, qui n'est pas une étiquette nécessairement sans intérêt et fausse, n'est pas suffisante pour comprendre, et surtout lorsque ils sont, et soyons de bonne foi, à 90% honnêtes, défenseurs des intérêts des classes populaires, des travailleurs, mais ils pensent d'une certaine manière et qu'ils croient juste. Ça, c'est un premier point. Aujourd'hui, nous allons parler de la Révolution d'octobre, particulièrement, comme l'a dit Michel, et je veux lui donner l'essentiel de mon temps, sur la question paysanne, puisque cette révolution a eu lieu dans un pays où il y avait 80% de paysans, au moins, en 1917, et que les autres révolutions au nom du socialisme, qu'il s'agisse de la révolution chinoise ou de quelques autres, se sont toutes passées, ou toutes eues, dans des pays à majorité paysanne, écrasant même, au moment de la révolution. Bien, alors, mais pour y venir, avant d'y venir, je crois qu'il est nécessaire de faire une longue introduction. J'essaierai de ne pas la faire trop longue pour pouvoir parler du sujet qui est notre sujet, d'une manière plus précise, plus détaillée, mais je crois que sans cette longue introduction, nous courons le risque de malentendus. Et d'une compréhension et donc d'une discussion superficielle, trop rapide, sans avoir compris les raisons qui m'amènent à penser d'une certaine manière. Alors, parce qu'il y a, toujours eu chez les marxistes et chez les autres, deux visions de l'histoire moderne, je ne parle pas de l'histoire à travers les âges, de l'histoire moderne, c'est-à-dire de l'histoire du capitalisme, devenant le système dominant mondialement. Il y a deux visions. L'une, c'est une vision étatiste, et que finalement l'expansion du capitalisme finira par homogénéiser, même si ça n'est pas très sympathique, mais finira par créer des conditions de travail, de rémunération du travail et des structures donc économiques à peu près équivalentes à l'échelle mondiale, et que donc, comme ce n'est pas le cas, le capitalisme a encore devant lui des décennies et des décennies, peut-être même davantage, pour y parvenir. Le capitalisme n'a pas accompli encore sa mission historique, qui est de créer un monde capitaliste plus ou moins homogène et égal. C'est une opinion qui est très répandue. Et dans le cadre même, et même parfois, elle est habillée d'habits marxistes. Il y a même des auteurs marxistes, notamment anglais, qui ont écrit « L'impérialisme remplit cette fonction objectivement », et ils puissent quelques phrases chez Marx pour se donner davantage de force, est une étape désagréable pour les peuples qui la subissent, mais nécessaire et finalement objectivement progressiste, entre guillemets, si on veut, parce qu'elle est, elle conduit à cela. D'autres, plus optimistes encore à l'égard du capitalisme, disent « l'impérialisme appartient déjà au passé, nous sommes post-impérialistes, à l'époque post-impérialiste, et le processus de transfert du développement de l'expansion capitaliste à partir de ses centres historiques, l'Europe occidentale et centrale, les États-Unis, plus tard un peu, plus tard le Japon, vers d'autres pays, en particulier évidemment la Chine, mais aussi d'autres pays du Sud, et la démonstration cela. Ce n'est pas mon opinion. Mon opinion, depuis toujours, depuis 1947 ou 48, donc pas depuis, et depuis ma thèse que j'ai écrite en 1954, qui a été défendue ensuite en 57, mais en fait, mon opinion, c'est que le capitalisme, dans son expansion mondiale, a toujours été et ne peut être que polarisant. C'est-à-dire qu'à toutes les étapes, pas seulement récemment avec la colonisation, l'impérialisme, etc., mais à toutes ces étapes depuis, si on donne une date, 1492, c'est-à-dire le début de, non pas la découverte de l'Amérique, parce que quand même ceux qui étaient là-bas l'avaient découvert avant, mais la conquête et la destruction des Amériques a été toujours polarisante. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, que les formes de cette expansion et donc les formes de la polarisation et les conditions de la polarisation sont restées identiques à elles-mêmes pendant 5 siècles. Ça, c'est idiot de dire cela, tout simplement. Mais il le reste, et on peut, d'abord on peut le voir historiquement, et on peut en comprendre a posteriori, après chaque étape, chaque phase, le pourquoi il est resté polarisant. Même quand il a donné les apparences, quand les apparences ont été plutôt favorables, ont laissé entendre que cette polarisation était en train d'être dépassée. C'est mon opinion. Et que cette polarisation, c'est la forme de la loi de l'accumulation associée, la paupérisation associée à la loi de l'accumulation. Parce qu'il y a eu beaucoup de diatribes, y compris passablement ironiques à ce sujet, en disant que dire que les travailleurs aujourd'hui en France vivent plus mal qu'en 1840, c'est grossier, c'est absurde, etc. C'est contraire à la réalité. Mais si on regarde à l'échelle mondiale, et c'est l'échelle à laquelle il faut regarder le capitalisme comme système mondial, la polarisation, elle a des prix, des tailles, elle a une taille infiniment plus gigantesque que Marx ne l'avait imaginé. Le rapport entre, si on le mesure comme cela, j'aime pas le mesurer de cette manière, mais enfin il n'y a pas PIB per capita, disons, de l'Angleterre au lendemain, au commencement de la révolution industrielle, vers 1820, disons, et du petit quart nord-ouest européen entré dans l'industrialisation, l'Angleterre, le nord de la France, la Belgique, et un tout petit bout de l'ouest de la Westphalie allemande, c'est tout, hein. Le reste du monde, pas le reste de l'Europe, mais le reste du monde, le rapport était peut-être, si on en exclut, pour 90% ou 95%, était de 1 à 1,2 et pas nécessairement en faveur de l'Europe. Desroches là a donné de bons indicateurs. Il va de, en faveur de l'Asie 1,3. Il est devenu de, on peut le mesurer aujourd'hui, 1 à 60, 1 à 20, on peut discuter, et ce n'est pas le même rapport pour tous les pays du monde, mais il est gigantesque. C'est-à-dire, la paupérisation à cette échelle, elle est gigantesque, simplement gigantesque. Et c'est l'une des dimensions, peut-être la dimension principale de cette polarisation. Bon, ça c'est un premier point de l'introduction. Mon deuxième point de l'introduction concerne ce que dit Marx, ce que pense Marx, ou ce que l'on croit qu'il a pensé quand on le lit attentivement sur le sujet. Marx s'est prononcé sur le sujet de l'expansion mondiale du capitalisme très jeune. Manifeste communiste 1848, il avait 30 ans, hein, ne l'oublions pas. Et à son époque, effectivement, le capitalisme, comme je dis, n'existait réellement que dans l'Angleterre, le nord-est de la France, le petit carré entre Paris, la Normandie et la Lorraine, la Belgique, à peu près dans son entière, et l'ouest de la région de la Ruhr, l'ouest de la Westphalie. Et néanmoins, il est persuadé, et je crois que l'histoire ne lui a pas donné tort, que les choses allaient aller très vite, et que ce capitalisme allait conquérir toute l'Europe, et au-delà, et qu'elle avait même amorcé le au-delà par la colonisation de l'Amérique et par la formation des États-Unis. Et il s'attendait sur cette base à ce que le capitalisme ne représente qu'une brève parenthèse, c'est l'expression que j'ai utilisée, c'est pas celle de Marx, que j'ai utilisée longtemps après lui, et longtemps même, je l'ai pas utilisé en 1948, hein, brève parenthèse dans l'histoire qui remplit une seule fonction, mais elle est d'importance, qui est de créer les conditions objectives, non seulement matérielles, c'est-à-dire production, mais technologique, scientifique, mais aussi mentalité politique et culturelle pour une autre société qui est le communisme. Une autre société qui est une autre étape supérieure de la civilisation humaine, qui n'est pas un mode de production nouveau, un peu plus efficient et un peu moins injuste que le capitalisme, ou beaucoup plus efficient et beaucoup plus juste que le capitalisme, qui est beaucoup plus que cela. C'est-à-dire une société fondée sur le principe de la solidarité et non pas le principe de la compétition. Et donc ça veut dire un changement de civilisation. Bon, il était persuadé que de ce fait, et il y a dans le manifeste des phrases entières, et je les ai citées parce que dans le livre que Delga va publier dans quelques jours ou quelques semaines, pas plus, sur le bicentenaire de Marx, et comme on m'avait demandé, la chose la plus curieuse, c'est que c'est paru, la première parution est en serbe. C'est pas une langue que beaucoup de gens lisent, mais on l'a publié là-bas, sur le manifeste communiste 170 ans après. Bien, donc, l'histoire ne lui a pas donné tort, puisque quelques deux décennies après, c'est rien du tout, hein, il y a eu la Commune de Paris quand même, il ne faut pas l'oublier. Mais elle a été la première révolution au nom du socialisme, même si ce n'était pas des marxistes qui ont été les acteurs majeurs de la Commune, mais aussi la dernière pour tout l'Occident développé. Il n'y a eu aucune tentative, même la révolution allemande de 1918, tentative aussi cohérente, même dans son incohérence peut-être, est aussi puissante que la Commune de Paris dans aucun pays, et je ne crois pas que quelque chose d'analogue soit à l'ordre du jour aux États-Unis, en Europe ou au Japon. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas trotskiste du tout. Je pense que l'idée d'une révolution mondiale est une absurdité en soi. Est une absurdité totale. Mais enfin, bon. Cette idée est restée quand même dans le marxisme historique. Le marxisme de la Deuxième Internationale, et n'oublions pas que elle a été créée du vivant de Engels, pas de Marx, mais de Engels, pensait qu'une chose analogue pouvait se passer en Allemagne, parce que l'arriération de l'Allemagne au plan politique était un avantage, parce qu'il y aurait une révolution bourgeoise qui conduirait rapidement à son dépassement par une révolution prolétarienne. Et Engels l'écrit très nettement. Il y a même l'embryon de cela dans le manifeste communiste sur l'Allemagne. Ça ne s'est pas passé, c'est pas mon sujet. Mais revenant à Marx, Marx, vers la fin de sa vie quand même, dans sa correspondance notamment avec Vera Zasulich, pense que l'arriération de la Russie, ce que Lénine appellera le maillon faible par la suite, est peut-être un avantage, précisément parce qu'il y aura cette impossibilité d'une révolution bourgeoise et son propre dépassement par une révolution socialiste dans un temps historique très bref, qui a eu lieu, effectivement. Alors, ce n'est pas mon sujet, on peut trouver effectivement chez Marx des phrases entières, des paragraphes, des développements, pensant que l'expansion capitaliste va homogénéiser, notamment au sujet de l'Inde, c'est fameux, mais aussi au sujet de la Chine, lorsqu'il écrit la prochaine fois que les armées étrangères voudront pénétrer en Chine, elles trouveront une pancarte à la frontière. Attention, vous rentrez ici dans la République bourgeoise de Chine. Effectivement, 1911, c'est une révolution bourgeoise. Sun Yat-sen et le Kuomintang voulaient une Chine capitaliste modernisée, comme février en Russie. Et dans les deux expériences ont montré que c'était impossible, parce que février n'aurait pas donné la démocratie, comme on le prétend aujourd'hui dans les médias. Il n'avait pas la force, la bourgeoisie russe, ou les milieux démocratiques russes n'avaient pas la force pour mettre à terre l'aristocratie et l'autocratie impériale avec ses alliés de classe. De la même manière en Chine, les seigneurs de la guerre se sont emparés de la majorité du pouvoir du territoire de la Chine, très peu après la victoire de la révolution bourgeoise. Et donc dans les deux cas, on pouvait et il fallait aller plus loin. C'est ce que Lénine, lui, a compris. Et donc, mon livre sur octobre, dans sa version arabe, est paru sous le titre « Vive la révolution d'octobre », parce que on veut le penser comme cela. Hein. Ce n'est pas un événement fâcheux de l'histoire, comme on peut dire « Vive la Commune de Paris », même si elle a été battue. Hein. Bon. Mon livre sur la révolution d'octobre, que vous trouverez ici dans sa version française d'Elga, c'est la moitié du livre, parce qu'il s'est trouvé que deux éditeurs, un à Paris, c'est Delga, mais un à Genève, donc en langue française, c'est le Sétim, m'ont demandé la même chose au même moment. Et alors, ils se sont mis d'accord, les deux éditeurs et moi aussi, pour partager les chapitres entre les deux ouvrages. Et justement, le chapitre sur la paysannerie n'est pas dans ce livre, il est dans celui du septième de Genève. Mais dans les autres langues, c'est-à-dire en anglais, en espagnol, en russe et en chinois et en arabe, les deux livres ont été réunis ensemble en un seul. Et je crois que c'est malheureux enfin, c'est comme ça. Bien. Le troisième point introductif, c'est que la révolution n'a jamais lieu que dans un seul pays, ou dans trois pays peut-être, mais il n'y a pas de révolution mondiale. Le monde ne change jamais par en haut, d'une manière, alors en allant jusqu'à la caricature par une réunion du général de l'ONU, où les chefs d'État du monde entier décideraient de changer le monde pour le mieux. L'histoire ne se passe jamais comme ça. Elle se passe par des avancées inégales d'un endroit à l'autre, et on l'appelle un pays ou un État, comme on veut. Et par conséquent, les avancées, je préfère le terme maintenant, depuis une trentaine d'années, j'utilise plutôt le terme de l'expression avancée révolutionnaire plutôt que révolution, une avancée révolutionnaire ne se passe que dans un seul pays. Donc la théorie de le socialisme est impossible dans un seul pays ne veut rien dire. Une avancée révolutionnaire vers le socialisme ne peut se passer que dans un seul pays. Ou dans deux ou trois, l'un après l'autre, mais pas spontanément et effectivement, sûrement pas à l'échelle mondiale. Mais de ce fait, et puis l'histoire a montré que ces avancées révolutionnaires ont été amorcées, et j'utilise le terme amorcées, elles n'ont pas créé un changement qualitatif définitif, pour autant qu'on puisse dire définitif, irréversible, historiquement. Dans les périphéries, il y a une révolution russe, c'est le maillon faible, il y a une révolution chinoise, il y en a une associée à une lutte de libération nationale au Vietnam, il y en a une à Cuba. Il y a eu des avancées beaucoup moins révolutionnaires, mais quand même des avancées dans pas mal de pays du Sud, même si ces avancées ont été à certains endroits très fragiles. Bon, il n'y a rien eu d'analogue dans la triade. Et il ne semble pas que ce soit à l'ordre du jour de l'histoire contemporaine, de l'avenir visible, disons, de l'avenir oui, visible. Bon. Alors, de ce fait, la révolution dans un seul pays, ou la pensée révolutionnaire dans un seul pays, même une avancée avec beaucoup d'illusions qui s'autoproclame révolution et qui pense, et sincèrement probablement, qu'elle peut construire le socialisme comme une étape, c'était le langage du marxisme historique, une étape vers le communisme. Dans un temps historique limité, quelques décennies. Elle se trouve confrontée à deux défis majeurs. Et c'est sur le deuxième que je vais, qui sera mon sujet, après cette longue introduction. Le premier défi, c'est la guerre permanente de l'impérialisme contre cette avancée révolutionnaire. La guerre froide, ce n'est pas la guerre froide de l'invention de Staline, c'est la guerre froide de l'après-deuxième guerre mondiale. La guerre froide commence en octobre 1917 et ne se termine pas même avec l'effondrement de l'Union soviétique, parce qu'il suffit que la Russie, héritière de l'Union soviétique, veuille une autre mondialisation que la mondialisation en place pour être l'ennemi. Tous les pays, démocratiques ou pas démocratiques, ça n'a aucune importance, tous les pays qui refusent la subordination totale et inconditionnelle sont des ennemis. Et tous ceux qui l'acceptent, comme l'Arabie Saoudite, que j'appelle maintenant la République démocratique d'Arabie Saoudite, ou la République démocratique du Qatar, font partie des gens très bien. Donc, ce n'est pas une question de démocratie ou pas démocratie. C'est une autre question. Donc, cette guerre est permanente, et ce n'est pas seulement la guerre froide, c'est la guerre chaude et la guerre froide. La guerre chaude de 17 à 21 ou 22, l'intervention, pas la guerre civile russe, il n'y a pas eu de guerre civile. 80% du territoire de l'Empire russe, sauf la partie sous occupation allemande à l'époque, passe du côté des Rouges, et avec enthousiasme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ennemis. Mais il n'y a pas de guerre civile, pas plus que... Il n'y a pas eu de guerre civile en France pendant la Révolution française, peut-être en Vendée, mais pas à l'échelle de toute la France. Bon. Mais il y a eu une guerre d'intervention déguisée sous prétexte de soi-disant guerre civile, mais en fait une guerre d'intervention. Après cela, la guerre froide. La guerre froide jusqu'à la guerre chaude, la Deuxième Guerre mondiale. Quand Staline tend la main aux Occidentaux avant Munich et après Munich pour leur dire l'ennemi principal c'est l'Allemagne nazie, l'Angleterre et la France sont avec l'Allemagne nazie contre la Russie. Et c'est ensuite l'armée rouge qui a battu toute seule les nazis. Le débarquement de 1944, les Russes étaient déjà capables, les Soviétiques, d'aller jusqu'à Trafalgar, hein, tout seul.
À Brest. Hein? À Brest, au moins.
Peut-être même l'Espagne aussi. Enfin bon, tout ça c'est... Bon. Donc, voilà. Alors, je reviendrai sur ce sujet parce qu'il est lié justement à la construction soviétique qui est sortie d'octobre 17. Donc ça, c'est le premier défi. La guerre permanente. La guerre permanente. Froide ou chaude? Chaude et froide entre les guerres chaudes. Le deuxième défi, c'est justement, et c'est mon sujet, c'est justement, puisque ces avancées révolutionnaires, celles que nous connaissons, on peut rêver à d'autres, et je l'espère, mais je ne les vois pas, sont amorcés à partir de périphéries, c'est-à-dire de pays non seulement arriérés, entre guillemets, au plan du développement industriel et technologique, mais aussi largement paysans. Donc, comment associer, insérer la majorité paysanne dans la transformation, disons, c'est un terme très large, hein, la transformation sur la longue route socialiste. Ce n'est pas la construction du socialisme, la longue route, on peut dire vert, en Amérique latine on aime beaucoup ça, on dit vert, hein, le socialisme et non pas construction du socialisme. Bon, comment le faire? Et ça, c'est donc mon sujet. Alors, je vais prendre deux cas. Je vais prendre celui de la Russie, sur lequel je vais m'étendre le plus, mais aussi, par contraste, je dirais, et après, celui de la Chine, qui vient après, et donc qui peut avoir et qui a tiré quelques leçons. Celui de la Russie. D'abord, pendant l'été, donc avant octobre, entre février et octobre, la débandade dans l'armée russe, une armée de paysans, les paysans rentrent chez eux et s'emparent, pas de toutes les terres, mais d'une bonne partie des terres. Comme propriétaires privés. C'est très inégal, ceux qui ont les moyens deviennent ceux qui seront plus tard appelés les coulaques, plus riches, et ceux qui ont moins de moyens ont moins le pain pour survivre. Ils n'arrivent pas à déposséder complètement les grands propriétaires aristocrates, mais ils en prennent un très gros morceau. Et donc, ils deviennent propriétaires. Marx avait dit au sujet des révolutions bourgeoises qui ont été en même temps des révolutions paysannes et où la paysannerie a été bénéficiaire de la révolution bourgeoise, et le cas le plus clair, c'est le cas français, évidemment, par la radicalisation de la révolution française, la paysannerie devenue propriétaire devient un défenseur du principe de la propriété et donc une réserve de la bourgeoisie ou l'ennemi des socialistes et des communistes qui sont pour l'abolition de la propriété. Pas seulement rurale, mais de la propriété des moyens de production et de la terre. C'est ce que Marx dit. Et Marx dit cela au sujet de la France, et il n'a pas tort dans son explication de Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, de la masse paysanne ralliée à la bourgeoisie contre l'embryon ou la petite classe ouvrière des journées de juin 1848, etc. Bon. Marx, Lénine est donc en octobre, mis devant le fait accompli. La révolution paysanne, elle a déjà eu lieu. Mais il lui donne un coup de pouce. D'abord, il la reconnaît immédiatement. C'est le décret sur la terre. Et c'est très important de le reconnaître. C'est-à-dire que. Mais il reconnaît aussi le marxisme de Lénine et même d'une partie de la Deuxième Internationale avait été favorable à l'idée de la nationalisation des terres. Je reviendrai sur ce point. Mais ils sont devant le fait accompli. Alors, comment associer nous avons une première tentative d'association, tentative réussie, mais avec des problèmes, d'association, c'est la NEP. C'est-à-dire tolérer le marché, mais essayer de le contrôler, bien ou mal, et l'articuler à une économie urbaine et industrielle en construction, à travers en grande partie des rapports de marché, avec justement la paysannerie, mais aussi avec d'autres moyens, puisque l'idée du Gosplan n'est pas une idée tardive, elle est déjà chez Lénine, de la planification. Et de la planification. Bon. Cette NEP sans lise est, comme on le sait, Staline, entre autres, passe à l'idée de la collectivisation. Là, je veux dire quelque chose sur cette collectivisation. L'idée que l'agriculture paysanne, de petits ou de moyens paysans, familiale, disons, paysanne, a de l'avenir, était condamnée par tout le monde à l'époque et avant. Quand je dis tout le monde, c'est-à-dire pas seulement les marxistes soviétiques et les staliniens parmi eux, mais également par tout le marxisme de la Deuxième Internationale, également par tous les socialistes sociaux-démocrates, également par tous les bourgeois. Tout le monde pensait que l'agriculture devait être organisée, une agriculture moderne, c'est une agriculture de grande entreprise sur le modèle de l'industrie. La différence, c'est que pour les capitalistes, grande propriété privée. Et pour les socialistes, d'une manière ou d'une autre, grande propriété collective, coopérative ou publique, État. Bon. mais grande propriété. Ce n'est que très tardivement. Or, si on regarde l'histoire réelle de l'Europe et des États-Unis, on voit que ce qui s'est développé, ça a été un capitalisme agraire familial. Et que cette entreprise agricole capitaliste, dans le sens qu'elle n'est pas faite pour l'autoconsommation, elle est faite pour à 90% ou 98% la commercialisation. Elle n'est même pas faite pour l'autoconsommation à 50% et 50% pour le marché. Cette agriculture familiale capitaliste s'est avérée être infiniment plus apte à absorber du développement technologique rapide et avoir une productivité du travail social agricole, des taux de croissance de la productivité du travail social dans l'agriculture, supérieurs même à ce qu'ils sont dans l'industrie. D'où la réduction à 3 ou 5% d'une population agricole qui produit suffisamment, non pas seulement pour nourrir bien ou mal avec des OGM ou ça, toute la population nationale, mais avec une capacité d'exportation. Ce n'est que très tardivement, après la Deuxième Guerre mondiale, que l'école française des agronomes de Montpellier, à l'époque très influencée par le Parti communiste, le marxisme, etc., ont défendu cette thèse de l'agriculture capitaliste familiale comme forme du développement agricole, du développement du capital dans l'agriculture, et non pas du tout la grande entreprise. Mais c'est très tardif. Alors, la collectivisation n'est pas une absurdité spécifique de M. Staline, et que personne d'autre n'y avait pensé. Tout le monde voulait cela. Tout le monde voulait cela. Et ce que veulent les Occidentaux aujourd'hui, et ce qu'ils font en Roumanie ou en Pologne, c'est de la grande propriété capitaliste, seulement cette fois, plus pour des Roumains ou des Polonais, pour l'agro-business occidental. Bon. Alors, mais ensuite, quand on a, donc il y a collectivisation, en plus, cette collectivisation a été vue à l'époque, et je remonte après au Brzezinski, comme le moyen de financer l'industrialisation accélérée. Autrement dit, de mettre un terme à l'alliance ouvrière et paysanne qui est à l'origine du succès de octobre et après octobre du ralliement du peuple russe et des peuples de ce qui deviendra l'Union soviétique dans leur immense majorité à la révolution. Rupture de cela, avec toutes les conséquences que cela a eu. L'une des conséquences, la conséquence majeure à mon avis, ça a été la transformation du modèle de construction dite socialiste en ce que j'ai appelé un peu plus tardivement, quand j'ai cherché des noms, on a donné des noms, ça a varié, le capitalisme machin chouette, etc. Capitaliste, le capitalisme d'État, capitalisme. J'ai utilisé une formule que j'ai vue en passant, mais je ne me souviens plus où, parce que je ne suis pas justement marxologue, non pas chez Marx, mais chez Engels, ou chez les deux, au sujet du programme allemand de Erfurt et machin chouette, un capitalisme sans capitaliste. Et un capitaliste sans capitaliste est devenu un capitaliste avec capitaliste. Mais le noyau était là, et je vais très souvent en Russie, je vous assure que la classe dominante, la classe politiquement qui gère la Russie, c'est la même, même dans son physique et ses manières de parler, exactement, c'est les apparatchiks qui sont devenus des propriétaires privés, mais qui parlent comme des apparatchiks, hein, et qui continuent à être sur ce plan nationaliste au bon sens du terme, c'est-à-dire on ne veut pas être, on n'est pas les laquais des Américains ou des Occidentaux. Bon, Alors, ce capitalisme sans capitaliste, écoutez, ma critique remonte à 1960, c'est-à-dire je n'ai pas attendu 1990 pour le dire. Je disais, parce que je voulais être optimiste, ce capitalisme sans capitalisme peut soit tomber à droite, ce qui a eu lieu, soit tomber à gauche par une avancée révolutionnaire nouvelle, ce que j'aurais souhaité, soit peut-être, comme je n'en voyais pas des forces, trouver un compromis au centre, au centre-gauche. Hein. Bon, ça s'appelle, et c'est là où j'ai fait la différence entre Thermidor et Restauration. Thermidor, c'est un compromis qui ne le garantit pas, il n'y a pas de garantie, mais permet une reprise un peu plus tard, hein. Une nouvelle avancée, Restauration essaye de le rendre possible, ou peu probable. Bon. Alors, ça s'est donc lié avec l'idée de Preobrajensky de financer, et c'est ce qui a été fait, par une surexploitation, on peut dire, du travail paysan, fut-il collectivisé. Mais il y a des histoires amusantes là-dessus. Dans une visite en Union soviétique dans les années 60, on me fait visiter, comme à tout le monde, un kolkhoz, et puis le type, le directeur du kolkhoz montre des statistiques, il me fait bouffer de bonnes fraises, et il me fait montre des statistiques qui démontrent que 90% du revenu est produit par les 10% de blessés au plan individuel et 10% 90%. Alors je lui dis de deux choses l'une. Ou c'est vrai, alors le socialisme ne vaut rien, la propriété privée est le seul moyen de travailler, ou vos statistiques sont fausses et vous le savez, vous attribuez à la propriété privée parce qu'elle est mieux payée, ce qui est produit en fait par la propriété, par la propriété collective. Vous trichez, hein, systématiquement. Et tout le monde, c'était pas une salle, c'était pas une tribune, c'était un petit groupe, le directeur du kolkhoz et ses acolytes ont souri. Ils n'ont pas dit non. Ils trichaient. Bon. Alors, voilà. Mao, et j'en viens pour conclure sur ce plan, ce point seulement, a peut-être tiré quelques leçons de cette histoire. Je crois qu'il en a tiré une très grande, qui était que le triomphe de l'armée de libération populaire ne va pas donner la terre aux paysans en propriété privée, va déclarer la terre propriété d'État. Et jusqu'à aujourd'hui, quand on parle en Chine, aucun officiel chinois n'ose dire que c'est discutable. Ils vous diront, comme n'importe qui, c'est là pour toujours. Ça appartiendra à l'État. Moyennant la mise à la disposition des familles paysannes, idéalement à égalité. Et l'idéal, c'est toujours l'idéal. C'est à égalité. En tout cas, c'est moins inégal que n'importe où ailleurs dans le monde. Hein. Et il y a deux pays seulement comme ça, c'est la Chine et le Vietnam. Il n'y en a pas trois. Hein. Avec donc l'idée, cette fois, d'une autre forme d'avancée dans la longue route du socialisme, c'est-à-dire, c'est les cinq modernisations de Chou En-lai, hein. Construire une industrie complète, moderne, auto-centrée, axée sur le marché intérieur, fut-elle soutenue par des morceaux importants d'industrie exportatrice en tentant de contrôler celle-ci, c'est-à-dire de ne pas devenir des sous-traitants maltraités, comme le sont les sous-traitants en Inde, au Brésil, ou ailleurs. Hein. Bon. Et articulé sur une agriculture paysanne de petits producteurs non petits propriétaires. Et la distinction est faite en Chine, et je n'ai eu cette distinction que faite dans les discussions en Chine avec des marxistes chinois, distinction entre la petite exploitation et la petite propriété. Et ce n'est pas seulement pour l'agriculture, c'est également pour un très grand nombre d'activités qu'on qualifierait d'artisanales ou de services urbains dans le cas de la Chine. Mais enfin, principalement, évidemment, c'est rural et agricole. Alors, ça donne, et l'articulation entre les deux permet de tenter de maintenir une alliance ou un soutien. Je ne veux pas parler de démocratie et de machin comme ça, ça ne m'intéresse pas. Hein. Un soutien général, parce que le revenu moyen des travailleurs urbains et ruraux progresse, mais lentement, et reste pas trop inégal. Il y a des hauts et des bas, évidemment. C'est une autre façon de voir. Alors, c'est une formule contradictoire et difficile, hein, et c'est pas une formule, c'est pas une formule qu'on trouve chez Marx. Je ne fais pas le reproche à Marx. Marx n'est pas un prophète qui a dit ce que chacun devrait faire 100 ans après sa mort, hein. Non, c'était pas un idiot, c'était un homme intelligent, très intelligent. Et donc, il n'a pas répondu à des questions qu'il ne se posait pas, hein, ni à son époque, ni à lui-même. C'est une formule difficile, mais à mon avis, et je retourne en Chine dans quelques jours, précisément discuter de cela au Parti communiste, je ne suis reçu par les organisations du Parti communiste, qui a l'air de marcher, avec tel problème, ça a l'air de marcher. Je reviens en conclusion rapide sur la question de la souveraineté. Dire que les avancées révolutionnaires sont nécessairement dans un seul pays, entre guillemets, veut dire qu'il faut défendre le principe de la souveraineté. C'est très impopulaire, surtout en Europe à l'heure actuelle, bien sûr. Mais cela implique de devoir distinguer la souveraineté nationale telle qu'elle a fonctionné dans l'histoire et telle qu'elle fonctionne encore dans les pays capitalistes, c'est-à-dire la souveraineté nationale, instrument des classes dirigeantes, c'est-à-dire de la bourgeoisie, d'une part pour donner un semblant de légitimité à l'exploitation de ses propres travailleurs, mais aussi, et pas moins, pour légitimer sa concurrence, voire la guerre avec les autres impérialistes, c'est-à-dire l'expansion impérialiste. Et les deux sont indissociables. D'où je comprends très bien que les gens de gauche, d'une manière générale, tous ceux qui ont à cœur les intérêts des classes travailleuses, le terme de souveraineté nationale ne leur soit pas sympathique. Mais ce n'est pas la seule souveraineté nationale. La révolution, ou disons les avancées révolutionnaires, ont besoin de défendre ce que j'appellerais alors pour la distinguer, la souveraineté nationale populaire, par démagogique, pas au sens de Le Pen, sans doute. Les fascistes ont toujours été des menteurs, utilisant des termes de la gauche pour ensuite faire le contraire, hein. Mais ça, c'est des menteurs professionnels. Pas du tout dans ce sens, mais défendre la souveraineté nationale comme il y a la guerre froide et les guerres chaudes contre vous. Vous allez y renoncer en disant j'attends que la révolution se fasse aux États-Unis. Bon. Voilà. Je m'arrêterai là, mais je crois qu'il y a sur cette question dans notre jargon, ça s'était appelé l'alliance ouvrière et paysanne, pourquoi pas, mais enfin bon, ça c'est du jargon qui raccourcit les choses, mais le problème de l'insertion de la majorité paysanne dans la transformation vers le socialisme, entendu comme vers un mode de développement qui donne des résultats. Un mode de développement, et je dis un mode de développement, donc il y a des aspects capitalistes là-dedans, hein, c'est pas un mode de développement pur et différent, tout de suite. Hein. Mais on peut dire que Marx avait déjà dit cela, il avait dit le socialisme sortira des entrailles du capitalisme pourrissant et il gardera cette pourriture longtemps avant de s'en débarrasser. Hein. Donc il ne faisait pas beaucoup d'illusions. Il ne faisait pas d'illusions sur la rapidité de l'histoire. Voilà. Bien. Il va être là.
Bien, nous avons pas mal de temps. Tu étais très très bref finalement.
J'ai fait combien de
temps?
45.
Un peu à peine plus. Bon, mais ça va, bon, tu seras payé quand même.
Oui. Tu payes? Tu as des cacahuètes?
Oh, regarde, tu as déjà la cristalline devant toi. Je pense qu'on a beaucoup de temps pour le débat et je crois qu'il y a beaucoup de choses à discuter. On va y aller tranquillement, comme on dit. Vous levez les doigts, je ne donnerai pas la parole dans l'ordre parce que. Voilà. Et Jean-Claude, je crois que tu as été très rapide. Hein.
Très rapide.
Vas-y. Et ensuite, il y a Michel, que j'ai aperçu.
Une petite question.
Dites votre nom parce que je ne connais pas tout le monde.
Jean-Claude Lecas.
Oui.
Il ne faut pas en dire plus.
je connais les...
Ouais. Quand on me dit sur le dernier point que vous avez abordé, sur la propriété de la terre, qui est une propriété d'État en Chine, la terre étant mise à disposition des paysans.
Oui.
C'est quand même... je pense qu'il faut rappeler que c'était comme ça dans l'ancien empire chinois. La terre était propriété du souverain, donc de la collectivité, et les paysans n'avaient que l'usufruit. Et la régulation de l'activité économique se faisait par les impôts. C'est-à-dire que les commerçants qui devenaient trop riches étaient dépossédés purement et simplement. Alors, je pense à ça parce qu'il y a un de vos concurrents, si j'ose dire, enfin une certaine époque, mais il était marxiste autrefois, il est beaucoup moins maintenant, c'est Michel Aglietta, qui était venu au séminaire de Jean Salem il y a quelques années, qui s'était pris de passion pour l'économie chinoise et qui rappelait ça avec le fait également que du temps de l'Empire chinois, l'économie chinoise était une économie de marché et de marché non capitaliste. Et donc, à partir de ce genre de constat, on peut se demander pourquoi les capitalistes nous ont convaincus que dès qu'il était question d'économie de marché, ça voulait dire économie capitaliste. Dans les années 60, il me semble qu'il y a eu des réflexions en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Allemagne de l'Est, sur la manière de rénover les mécanismes du plan. Et donc, et ça n'a pas marché, soit que c'était complètement utopique, soit que ça se soit heurté à la résistance de caciques, enfin peu importe, pour des raisons sociologiques, morales, tout ce qu'on veut. Mais la question qui est restée dans l'esprit des gens que le marché est obligatoirement capitaliste est une question fausse, est une idée fausse. Et peut-être c'est une question à creuser fortement maintenant pour comprendre ce qui se passe en Chine et ce qui devrait se passer ailleurs.
Bon, je peux te dire tout de suite que ce que tu dis me paraît, tu as raison. Et je l'ai pris en compte. Dans tous les systèmes que j'ai appelés systèmes tributaires, justement, la famille des systèmes tributaires, c'est-à-dire des sociétés de classe avancées, mais pré-capitalistes, le moyen de production principal reste la terre, et la terre est théoriquement propriété d'État. Même dans les formes périphériques, comme la forme féodale européenne, il y a une superposition de droits. Il y a les droits du roi, il y a les droits du seigneur local, et il y a les droits des paysans. Il faut distinguer, la terre n'est pas la propriété du seigneur, le seigneur. Il y a en arabe une distinction de mots, pour cela qui est très intéressant. On dit « el-malek ou el-sayyid », propriétaire de la terre ou maître de la terre. C'est pas la même chose. Hein. Maître de la terre, ça veut dire avoir des droits politiques, d'une certaine manière, qui sont théoriquement délégués par le pouvoir suprême, celui de l'empereur ou du pharaon, et c'est en Égypte, déjà à l'époque pharaonique, hein, avec des relations commerciales partielles, parce qu'une bonne partie quand même de la production paysanne, qui est la majorité de la population, va à l'autoconsommation familiale. Mais il y a un excédent. S'il n'y avait pas d'excédent, il n'y aurait pas de civilisation brillante. Il n'y aurait pas des constructions gigantesques, etc., etc. Donc, contrairement à ce que tu as raconté, ce n'est pas les esclaves qui ont fait les pyramides. Hein. C'était la corvée des paysans. Ça n'avait rien à voir avec l'esclavage. Hein.
Les esclaves étaient étrangers.
Il y en a tellement peu que c'était sans importance. Hein.
On va mettre ça dans le débat tout à l'heure.
Mais je ne crois pas que Mao ait hérité automatiquement. Oui. D'ailleurs, la dégénérescence de cette forme de propriété d'État, à partir du moment où la Chine est intégrée dans le système capitaliste mondial, c'est-à-dire à partir des guerres de l'opium 1840, hein, et un peu plus à partir de la fin du 19e siècle, c'est une histoire courte, hein, parce que la fin du 19e siècle, se hit après, il y a 1911, hein, 20 ans après. Hein. Donc, étaient devenus des quasi-propriétés privées. Ce qui a été beaucoup plus marqué dans le cas du Vietnam, parce que le Vietnam a été colonisé véritablement, ce que la Chine n'était pas, et ce qui a été encore beaucoup plus vrai, et je l'ai étudié particulièrement dans le cas de l'Égypte, où les Asiyad al-Ard, c'est-à-dire les maîtres du sol, sont devenus des propriétaires privés. Et ce n'est pas Muhammad Ali qui l'a fait, c'est le Khedive Ismail qui l'a amorcé, et c'est les Anglais qui l'ont complété, avec l'appui évidemment de la classe qui en était les bénéficiaires. Dans les interstices, c'est rare que la grande propriété privée couvre l'intégralité du sol agraire. Dans les interstices, il y a ce qu'on appelle les paysans riches, c'est pas faux, qui représentent une minorité, mais une minorité importante politiquement, parce que c'est elle qui tient le village, et c'est elle qui... dans le cas de l'Égypte, c'est très, très évident, c'est elle qui a fourni tous ses cadres aux femmes musulmanes, etc., etc. Bon. Donc, je ne crois pas que Mao ait simplement hérité. Il n'y a pas de continuité, parce que cette continuité avait été déjà brisée, et encore davantage avec les seigneurs de la guerre, le Kuomintang, l'invasion japonaise, etc., etc.
Michel.
Oui, vous avez parlé de Kulkoz, mais il y a Kulkoz et Sulkoz.
Oui.
Est-ce que vous avez écouté les responsables du Sulkoz? Et est-ce qu'il y avait ces...
Non,
Il y a une différence quand même entre...
Oui, il y a une différence, mais elle est moins importante que... telle qu'elle est présentée. Le kolkhoz était juridiquement la propriété des coopérateurs, le sovkhoz juridiquement la propriété de l'État, mais la manière de les gérer n'était pas très différente.
S'agissant d'un kolkhoz où on cultivait des fraises, est-ce que c'est celui...
Je ne sais pas si on y cultivait des fraises, je dis que simplement, comme c'était l'été, on nous a donné de bonnes fraises à manger.
Tu sais que le candidat du Parti communiste de la Fédération de Russie était président de Sovkhoz de fraises dans la périphérie de Moscou.
C'est peut-être lui. C'est peut-être lui.
Bon. Oui.
C'est tout ce que tu dis. Je suis un peu déçu par rapport au Sovkhoz. Il n'y en a pas, enfin, vous n'avez pas visité le Sovkhoz.
J'ai visité un kolkhoz, c'était un kolkhoz, hein. Mais je ne crois pas que je me trompe peut-être.
Et l'importance des kolkhoz quand même dans le...
Je crois qu'à un moment donné, les soviétiques ont transformé tous les kolkhoz, les ont déclarés sovkhoz, hein. Ce qui était facile parce que précisément la gestion n'était pas très différente. Et dans la conscience certainement des kolkhoziens, ils ont des familles paysannes qui étaient, c'était pas très différent, elles se voyaient comme une espèce de, une forme de salarié de l'État.
Oui, c'est toi qui avais raison.
Je n'arrive pas à concilier l'idée de la paupérisation générale avec l'évolution de l'espérance de vie à l'échelle mondiale.
Ça n'a rien à voir. Rien à voir. L'espérance de vie, grâce à Dieu, c'est grâce à la technologie médicale. Même dans les pays pauvres, on a des antibiotiques qu'on n'avait pas, même dans les pays riches, il y a 50 ans ou il y a 100 ans. Par conséquent, c'est toute la question de la mesure de la productivité du travail social. La mesure de la propriété du travail social n'est pas très difficile quand le produit social est une marchandise physique ou qui ne varie pas à travers, qui varie à travers le temps, bien sûr, mais lentement. C'est-à-dire produire un mètre de cotonnade ou produire une automobile. L'automobile de cette année n'est pas très différente de celle de l'année dernière. Il y a toujours une petite différence, mais bon, etc. Mais dans les services, ça devient très difficile, dans certains services. En particulier la médecine. Est-ce qu'on dira que la médecine aujourd'hui est deux fois plus productive que la médecine il y a 100 ans parce que la mortalité a diminué de moitié, j'en ai une proportion, mais peu importe, hein, ou que la longévité a doublé, je ne sais pas, elle n'a pas doublé, mais elle a augmenté. Comment mesurer le changement? On peut l'appeler, je l'appellerai, c'est un terme banal, hein, progrès. Je ne vois pas pourquoi on l'appellerait pas progrès, de savoir soigner un peu mieux, mais ça n'a rien à voir. La paupérisation, c'est une paupérisation relative et, dans certains cas, absolue. Quand le PIB per capita en Chine était 20% supérieur à celui de l'Angleterre en 1820, et qu'il est un quart de celui des États-Unis aujourd'hui, c'est une paupérisation, ça s'appelle une paupérisation. Et quand ce n'est pas le cas de la Chine, mais c'est le cas de l'Inde, pratiquement 50% de la population de l'Inde a vu son niveau de vie absolu en termes de consommation alimentaire, en termes diminuer au cours des 50 dernières années en particulier, diminuer, réduit, même si parallèlement la mortalité, pas la mortalité infantile, ça j'en sais rien, la longévité, je sais pas, a augmenté grâce au progrès de la médecine.
Pierre, le normand. T'as levé la main avant, je te signale. Et après, que j'anime.
Peut-être d'abord pour. Dans le cours de la discussion, on a évoqué la question des kolkhozes et sovkhozes. Pour avoir suivi un petit peu l'agriculture bulgare dans les années 80, j'ai été témoin de l'importance du secteur privé et de sa production extrêmement intensive, très marchande, supportée, entretenue et sous contrat par les coopératives ou les fermes d'État devenues, comme vous le savez, les conflits à voile de ciel. Je ne reviendrai pas sur le gigantisme de la chose, mais ce qui m'apparaissait, c'est qu'il y avait, au travers de ces petits d'exploitation extrêmement intensive, une survivance forte, d'une approche, comme on dit, artisanale de l'agriculture, avec au moins en apparence le paysan était à la fois le producteur du reste et que possédait un peu de capital et il avait l'usage de la terre. Et du coup, un certain nombre d'auteurs, je pense à, je ne sais plus leur nom, ça c'est une intervention en tout cas, qui ont écrit un bouquin chez Delga qui expliquait la chute du soviétisme par le fait que, eh bien, on avait laissé prospérer le secteur privé au sein de l'Union soviétique. Le verre était dans le spirit et le poisson est mort. C'est une première question. La deuxième chose, c'est que j'ai bien compris que la souveraineté au service des peuples, c'est la deuxième partie du bouquin de chez Delga.
Oui.
C'est ça?
Oui, oui. Non, non. Oui, c'est celui-là, celui de cette île.
C'est bien ça, la deuxième partie.
Oui, oui, oui.
Ah, c'est une révélation.
La première partie, c'est sur la question de la souveraineté, la défense de la souveraineté au sens populaire.
Vous avez dit que la Delta et cette île, c'était partager la publication de la loi unique.
Ben oui.
Est-ce que la Delta d'à côté, et c'est ça?
Oui, il y a trois chapitres dans Delga, et qui ne sont pas ceux-là, et il y a deux chapitres là. Le livre, à l'origine, comportait cinq chapitres, et il est paru en anglais avec cinq chapitres.
Alors, si je peux me permettre, là-dessus, c'est, vous développez beaucoup, notamment dans la deuxième partie sur l'agriculture paysanne voie de l'avenir, vous développez beaucoup de cas naturellement des paysanneries ou des périphéries. Mais vous attachez pas mal d'importance aussi à la question des agricultures familiales modernisées, qui vous paraissent un peu comme une forme un peu d'achèvement, mais en même temps, vous savez très bien qu'elle, cette agriculture familiale modernisée est, vous l'avez, entre les pinces du complexe agroalimentaire, par le monde, par l'aval.
En Occident, oui.
Oui, c'est bien de ça que je parle.
Ah oui, nous sommes d'accord.
L'agriculture familiale modernisée, c'est naturellement dans les pays du centre. C'est bien ça que je voudrais évoquer. Pour avoir fréquenté la paysannerie française depuis un millier, j'ai un peu des quelques soucis là-dessus, parce que étant en même temps militant du mouvement ouvrier, c'est une vieille question, est-il légitime d'essayer d'associer, d'intéresser, de voir les différences du commun entre la situation des agriculteurs et des ouvriers, par exemple. Est-ce que le symbole de la faucille du marteau est un peu complètement dépassé, ou est-ce que, effectivement, ça reste en dépit des faibles effectifs d'agriculteurs rencontrés, ou quelques pourcents, ont-ils un rôle suffisamment important pour l'entretien des espaces, pour l'alimentation, etc., pour que nous recherchions des voies qui permettent de faire, de nous retrouver entre militants ouvriers et militants paysans crédits et militants paysans ouverts et solutions. Et à cet égard, je ne voudrais pas développer de passer divers du temps, mais s'il y a des fortes tendances, d'une part, à une division accélérée, aussi bien technique que sociale, du travail, y compris dans ces agricultures familiales modernisées, il y a bien entendu le processus de concentration qui est lié non pas seulement à l'agression peu sensible en France de l'agriculture de firme, mais par le processus d'expulsion-promotion qui fait qu'à chaque génération, on perd la moitié des exploitations qu'elle fait de la France dans les derniers 25 ans. Je ne développe pas, c'est connu, mais je crois qu'il faut le rappeler. Et face à cela, pour l'avoir observé, ce sont des éléments minoritaires, mais j'observe qu'il y a ce que je pourrais appeler des contre-tendances, aussi bien sur ces trois fameux facteurs de production que l'économie conventionnelle classique reconnaît, la terre, le travail et le capital. On voit très bien que, aussi bien pour le capital que pour des formes sociétaires se sont développées, soit des formes sociétaires plutôt mutualistes, plutôt proches des paysans, ou qu'on fait allant dans le sens d'enfermement plus grand encore dans la logique capitaliste, mais quand vous avez derrière le travail, vous avez entre les associations de fait pour les grands chantiers de récolte, de moisson, par exemple, c'est extrêmement classique. C'est une forme informelle, mais vous avez aussi des associations de fait. Et au niveau du travail, vous avez notamment l'institution des groupements agricoles d'exploitation. Je ne vais pas développer tous ces aspects. simplement pour signaler qu'il y a au sein même de cette agriculture familiale modernisée, eh bien, une compétition. Est-ce qu'on peut parler d'une certaine lutte de classe, une vision qui pourrait se rapprocher d'une certaine lutte de classe, avec notamment, en plus, sur la question de la terre, l'idée qui se répand de la défense des communs, comme l'eau,
bon.
La
forêt, etc. Bien. Sur ta première question, la Bulgarie, je suis totalement ignare. Je ne sais pas, ignorant. Je ne sais pas du tout les spécificités de la Bulgarie par rapport à l'Union soviétique de l'époque. Donc, je ne peux rien dire. Je te crois sur parole, c'est tout. Deuxièmement, l'autre problème est beaucoup plus important. Enfin, plus important, non. Est un problème très important. Dans l'implosion du capitalisme contemporain, dans le chapitre de conclusion de l'audace, toujours de l'audace, encore de l'audace, qui n'est pas de moi, hein. Bon, bien, je viens sur ce problème. Nous sommes parvenus à un stade du capitalisme, et c'est mon premier chapitre de l'implosion, de contrôle par les monopoles. C'est un stade nouveau du capitalisme des monopoles, dans lequel le contrôle des monopoles est devenu, surtout, pas sur l'économie, sur la politique, sur les médias, sur les élections, sur n'importe quoi, surtout, sur le formatage des individus, bon, total. Et donc, à peu près toutes les activités humaines sont des sous-traitants, souvent des jurés, ou de facto, dans beaucoup d'autres cas, des monopoles. C'est le cas aujourd'hui de l'agriculture familiale. L'agriculture familiale est prise entre les monopoles qui fournissent les intrants, les banques, les pesticides, les machins, les engrais, et les monopoles qui contrôlent en aval la commercialisation, les chaînes de commerce, etc. Et sous-traitant tel que leur théoriquement, d'après la théorie bourgeoise, étant propriétaire de la terre, ils devraient avoir la rente de la terre, étant capitalistes même parce qu'ils sont propriétaires formels de leurs moyens de production, des tracteurs, etc., rémunération du capital, et étant travailleurs, le salaire du travail. En réalité, dans le système des prix qui sont donc le contraire de ce que Madame Machin appelle les prix vrais, c'est les prix les plus faux possibles. Dans ce système des prix relatifs, le revenu est zéro. Et ils ne survivent que grâce aux subventions, c'est-à-dire que ce sont les nationaux, les citoyens, qui payent les surprofits, qui sont des rentes de monopole, par le biais des subventions qui permettent de survivre au capitalisme familial. Donc, c'est un drôle de capitalisme familial à leur âge. Ce n'est pas le cas de la Chine. Ce n'est pas. Moi, je me suis baladé pendant 2 mois avec une équipe d'une centaine de Chinois dirigée par Wen Tiejun qui connaît les problèmes agraires à fond, à travers 8 provinces de Chine rurales. Précisément pour voir comment s'articuler cette agriculture familiale avec les fournisseurs d'intrants et avec les débouchés sur le marché. Les fournisseurs d'intrants étaient tous, pour eux, contrôlés par l'État. Et obligés de livrer les intrants à des prix raisonnables, entre guillemets, qui leur permettaient d'avoir un revenu réel. Et leur liberté en aval de commercialisation était encore plus forte. On pourrait dire partiellement du fait de l'arriération du pays, c'est-à-dire que ce n'est pas les grandes chaînes qui sont dominantes sur les marchés de consommation des villes chinoises, ou même des gros villages, des bourgs, mais donc une situation très différente. Très très différente. C'est-à-dire que la paysanne, l'agriculture familiale paysanne n'est pas un sous-traitant des grands monopoles ou de la grande production. C'est donc une situation très différente. Je crois, et ça, François Houtard l'a étudié plus que moi, moi je l'ai pas étudié, je l'ai vu à travers deux, trois voyages au Vietnam, mais rapidement, sans pouvoir le contrôler, en bavardant avec quelques camarades, mais sans plus, tandis que François Houtard s'est installé dans la campagne vietnamienne pour en discuter avec, pour le voir et en discuter avec davantage de gens. Bon, c'est aussi du même type que pour la Chine. Ce qui n'est pas le cas de l'Inde ou du Brésil, du tout. Alors là, on est très proche du modèle occidental sur exploitation en amont et en aval par les grands monopoles.
Alors, il y a encore trois questions, 1, 2 et 3, vous êtes le dernier, donc on va commencer par ce duo qui avait levé la main avant. Vas-y.
Kamel, donc, remarque et question. Je voulais dire tout de suite ce que je vais dire, maintenant l'industrie est ancrée plutôt dans le sud, hein, périphérie, et encore plus précisément en Algérie, en Israël, en particulier la révolution arabe. Première remarque, vous avez parlé de la cassure, de l'alliance entre les paysans et la classe ouvrière en IRSS, par la révolution bolchevique. Est-ce qu'on peut être plus précis? Parce que certains historiens parlent de cette cassure au moment où, du temps de Staline lui-même, il y a eu la dissolution de ce qu'on appelle les CNT, du complexe ouvrier-tracteur, c'est-à-dire le lieu même où les ouvriers et les paysans s'entraînaient pour réparer les machines, pour les machines agricoles, évidemment. Est-ce que ce n'est pas porté un coup aggravé après par l'arrivée de Khrouchtchev qui a transposé le modèle américain dans le, agricole dans le modèle productiviste
sûr.
Voilà. Donc ça, c'est une première remarque, mais la question qui vient, elle est liée à celle-là. Vous avez dit que c'est une solution qui a l'air de marcher avec des problèmes, cette histoire de petite exploitation sans propriétaire. Est-ce que la coopération agricole dans ses diverses modalités n'est pas aussi une solution à envisager? Je dis dans ses diverses modalités parce que la coopération à son stade le plus élevé, c'est-à-dire le bien en commun, et la terre, les matériels agricoles, les émotions des facteurs, etc., c'est un stade trop élevé des fois par rapport au niveau de conscience, quand ce n'est pas le niveau d'alphabétisation lui-même qui se pose, c'est pour ça que j'ai vu mon esprit est entré dans le sud. Hein. J'ai vécu avec mais par contre, le contrôle de mise en valeur, c'est-à-dire où une partie des choses sont mises en commun, c'est des choses qui peuvent, qui ressemblent un peu à ce que vous avez dit, du moins je le pense, est-ce que ça ne pourrait pas justement être des pistes à explorer, à soutenir? Je rapporte en tant que témoin, dans la révolution algérienne des années 70 jusqu'à 75-76, c'était les groupements de mise en valeur qui étaient supérieurs, hein, par exemple, en termes de rendement, en termes de réussite, hein, entre guillemets, pour faire court, par rapport par rapport à la coopération. Mais déjà, la coopération, c'est... En fait, une troisième question, et là, je demanderai que mes parents... depuis la... Je m'intéresse au problème de transition. C'est un bien gros mot, mais bon, on est obligé d'utiliser des concepts comme ça, on les appelle au fur et à mesure, qu'on s'explique. Le problème de transition, en tout cas, hein, de transition du capitalisme vers quelque chose qu'on pourrait appeler socialisme. Est-ce que vous ne pensez pas, compte tenu du contexte actuel, des mutations, hein, plus que le contexte, hein, c'est pas conjoncturel quand même, c'est-à-dire depuis la disparition, la défaite de l'URSS, et donc, les forces du capital se sont trouvées revigorées et sont capables, à tous les niveaux, d'imposer la vision, d'imposer l'organisation sociale bien poser le mode de production. Et je pense que plus que cela, aujourd'hui, les forces dirigeantes à l'échelle mondiale, je vous suis dans cette nécessité de se placer à l'échelle mondiale, n'autoriseront pas le capitalisme véritable. Moi, je suis convaincu de cette chose. On ne va pas tolérer des petits capitalismes. Déjà, l'inégalité de développement, la loi de l'inégalité de développement, met à jour les contradictions que l'on voit aujourd'hui, et peut-être même les guerres, si on veut dire, pas seulement entre les États-Unis et la Chine, mais on voit la droite, la France, voilà, c'est des contradictions interimpérialistes qui commencent toujours par les guerres commerciales, et les États-Unis, par les canons. Est-ce que donc, la question c'est, est-ce que donc, comment traduire plutôt cette hypothèse donc, de violence capitaliste qui n'autorisera pas d'autres capitalismes à la périphérie, comment la traduire sur le plan politique, sur le plan de la formation des blocs politiques. C'est-à-dire, je pense que, à mon avis, je voudrais vous entendre sur ça, ça va poser la radicalisation des blocs politiques. On ne peut plus faire des transitions. Je veux dire par là que les blocs doivent mettre en avant des revendications plus radicales qu'on ne pouvait le faire avant, c'est-à-dire en termes de front, en termes d'alliance. Là, je pense qu'aujourd'hui, ça va nécessiter de passer directement à la revendication de la propriété publique et peut-être même de la propriété d'État, la propriété collective des moyens de production. On ne peut plus se satisfaire de demi-mesures. Voilà ce que je voulais dire.
Bon, écoute, tu as posé des questions très importantes. La plus facile, me semble-t-il, c'est la question des SMT. Le fait de la suppression des SMT par Staline montre justement que, dans la réalité, le mode de gestion des sovkhozes et des kolkhozes était devenu similaire, même si, à l'origine, les kolkhozes étaient véritablement des coopératives, même si elles n'étaient pas toujours très très volontaires, mais elles étaient souvent volontaires, au moins pour une partie d'entre eux, les moins aisés. Donc, il n'y avait plus lieu de faire la distinction entre sovkhoze et kolkhoze, et donc la dissolution des SMT. Maintenant, cette question de la petite exploitation sans petite propriété et sa modernisation, possible ou pas, exige les formes de coopération, oui, sont nécessaires, mais il ne s'agit pas de coopératives de production, il s'agit de coopératives très diverses. Certaines, par exemple, coopératives pour la commercialisation, c'est le plus facile parce que c'est l'intérêt commun des vendeurs de constituer un groupe pour négocier le prix. La coopération pour certains travaux qui exigent effectivement une main-d'œuvre plus importante, mais saisonnière ou sur une période courte, que celle que la famille produit. Alors, ça peut s'appeler l'entraide, c'est-à-dire au moment de la récolte, surtout par exemple pour les fruits et légumes, où il y a besoin d'une quantité de travail plus grande donnée sur un temps très court. Hein. Bon. Il y a en Chine une gamme, il y a aussi des coopératives de crédit mutuel et d'assistance mutuelle aussi pour des pans de la vie sociale qui ne sont pas directement la production, mais qui sont liées à elle, la santé dans la famille d'un tel, ou les conditions familiales, une mère qui ne peut plus travailler parce qu'elle est enceinte, ou bien parce que des enfants sont malades, etc., des choses de ce genre. Il y a donc une gamme très forte. À un moment donné, au moment des fameuses communes chinoises, la direction du Parti communiste avait imaginé que ce n'était pas des communes, des coopératives, ce n'était pas des sovkhozes, les communes chinoises. Les communes chinoises avaient, c'était un peu l'idée de la commune de Paris. La République, c'est une fédération de communes. C'est-à-dire que la commune chinoise avait des responsabilités administratives, je dirais presque politiques, d'un groupe de villages. En général, ce n'était pas un village. Et quand on dit un groupe de villages en Chine, ça approche de 200 000 personnes rapidement. Hein. Bon, c'est-à-dire que ce n'est pas une petite chose. Aussi, les fameuses industries rurales. C'est très répandu en Chine. Parce qu'en Chine, vous avez... La moyenne, c'est dans ces... dans ces organisations, c'est une trentaine de villages. Une trentaine de villages, il y a forcément un ou deux bourgs, on les appellera comme ça. C'est-à-dire ce qui serait considéré en Occident comme des villes. C'est des petites villes de moins d'un million d'habitants, mais de souvent de plus que 500 000. Hein. Bon, et dans lequel une bonne partie, pas la totalité, mais une bonne partie de la main-d'œuvre est fournie par les villageois, parce qu'il y a des temps morts dans leur dans tout le travail paysan. Il y a des saisons creuses, hein, par eux, ou bien lorsqu'ils sont assez nombreux, qu'il y a plusieurs frères et sœurs sur un morceau de dans une famille, à tour de rôle, l'un ou l'autre va travailler à l'usine, c'est beaucoup dire, l'atelier, mais qui fabrique des choses, hein, et qui fabrique des choses en grande quantité pour le marché interne, et je dirais presque, je dirais, parce que je les ai vus, de bonne qualité, hein, notamment toute la poterie, la faïence, le machin, etc., hein, et etc. Donc il y a une gamme de... Je n'ai pas vu ça ailleurs. La formule coopérative est super simplifiée en général. Soit c'est de la coopérative pour acheter des intrants ou pour commercialiser les produits, soit c'est des coopératives à un échelon plus élevé dans la théorie soviétique, c'est-à-dire pour des travaux en commun allant jusqu'à la totalité de la production, c'est-à-dire pas seulement le labourage, par exemple, avec tracteur, etc., mais le reste également. Bon, maintenant, je suis d'accord avec toi sur la radicalisation. Comme je dis, de l'audace, toujours de l'audace. C'est-à-dire, je pense que le premier pas incontournable, c'est l'étatisation, et j'ose le dire, la nationalisation des grands monopoles qui exercent le contrôle absolu sur les sociétés occidentales, pas sur l'économie seulement, sur l'économie, la politique, les élections et tout le bazar. Bon, on ne peut pas leur confier le soin et la responsabilité de se réformer eux-mêmes et d'être gentils, de tenir compte de l'écologie et du traitement égal des hommes et des femmes, ou des femmes et des hommes, etc., etc. Ce blabla à la... Aujourd'hui, c'est le blabla à la... Comment il s'appelle? À la Macron. Hein, c'est du blabla infect, infernal. C'est de la merde. Hein. Bon, il n'y a pas de nom pour cela. Donc l'étatisation. Alors, les adversaires de la nationalisation ont un argument. C'est nationaliser, c'est maintenir le même système de production, mais en plus, hélas, bureaucratisé. Et donc, irresponsable. Alors que la propriété privée, il est responsable parce que s'il gère mal, il fait faillite. Et il perd ses sous. Il gère mal, on n'a pas vu les banques tellement bien gérées. et ça ne les a pas empêchés, ça n'a pas empêché les États de faire payer les citoyens pour sauver les banques. Mais enfin bon, c'est le discours, et c'est l'idéologie. Et Marx a raison, dès le manifeste, d'écrire dans le manifeste l'idéologie de la classe dominante, l'idéologie dominante dans une société, c'est l'idéologie de la classe dominante. Et les classes dominées partagent l'idéologie des classes dominantes, et par conséquent donnent, dans le capitalisme, à la concurrence, et ils parlent de la lutte de l'émiettement des luttes ouvrières. C'est-à-dire que quand on découvre aujourd'hui l'émiettement des luttes ouvrières, mais il essaie d'émietter. C'est une stratégie systématique, mais qui accompagne des stratégies habiles, qui accompagne l'adhésion à cette idéologie par les classes dominées. Bon, donc on ne peut pas. Mais il faut dire, oui, il y a le risque de bureaucratisation. Et dans le cas soviétique, nous l'avons vu, que ce risque devient une réalité. Et ce n'est pas le seul cas. C'est le cas aussi de tous les pays sous-développés, si on les appelle ainsi, les pays du tiers-monde, les Nassériens, les Algériens, etc., dans le secteur nationalisé. Mais la nationalisation et étatisation est la précondition d'une possible socialisation. C'est-à-dire socialisation, l'exercice réel du pouvoir de décision par les travailleurs. Alors, les formules comme celle de l'autogestion qui ont été la formule yougoslave du titisme, avec certainement son caractère positif et sympathique à mon avis, mais aussi ses limites, parce que les entreprises autogérées sont devenues concurrentielles les unes des autres, et elles ont fini par accepter aussi une idéologie qui était de choisir un directeur compétent, c'est-à-dire un directeur compétent par à la fois ses relations politiques d'une part, et d'autre part par son d'habileté à fonctionner sur le marché. Bon. Il y a, et ça a été repris, et même sous une forme un peu caricaturale, dans le cas algérien, surtout que dans le cas algérien, il y avait un facteur aggravant qui était que le type de colonisation française, la colonisation de peuplement qui avait pris les meilleures terres, avait paupérisé, alors dans ce cas-là, clochardisé, ça a été le terme de, comment elle s'appelle, la française là, qui a écrit, une sociologue,
Germaine
Tillon, des choses magnifiques, la paysannerie a été détruite en Algérie par la colonisation. Alors, reconstruire une, et c'est un cas dramatique, reconstruire une paysannerie là où elle a été détruite, il y a deux cas dramatiques. L'un, ça a été l'Algérie, et l'autre, c'est le Venezuela. Le Venezuela, la rente pétrolière, a fait qu'il n'y a pas de paysans au Venezuela. Il y a des terres arables fantastiques, hein, mais il n'y a pas de paysans. Il y en a un tout petit peu sur la frontière colombienne, et ce sont des Colombiens. Bon, et comment insérer une paysannerie qui n'existe pas et qu'on va reconstruire, parce que s'il faut reconstruire une agriculture et une production agricole, au moins alimentaire, pour assurer l'indépendance alimentaire et pas la sécurité alimentaire payée avec la rente pétrolière. Alors les Algériens et les Vénézuéliens ont choisi la sécurité alimentaire payée par la rente pétrolière. Mais à mon avis, c'est un choix dangereux. L'histoire a montré qu'il était il conduisait à une impasse dès lors qu'on veut faire quelque chose, si on veut faire quelque chose comme c'était le cas et comme c'est encore le cas au Venezuela. Bon, alors donc, moi dans l'audace, je dis comment socialiser ? Comment socialiser ? Et c'est socialiser une économie moderne. C'est-à-dire on ne va pas détruire les grandes usines qui fabriquent des engrais pour fabriquer des engrais différemment par des petites unités de production. On hérite on hérite le pire peut-être, mais aussi le meilleur. Et donc comment, c'est ce que j'ai appelé avoir une négociation collective, c'est-à-dire des prix négociés. Des prix négociés entre les associations de paysans, probablement sur une base territoriale, un district, un département, j'en sais rien, les directoires des industries nationalisées en amont, des banques nationalisées en amont, des chaînes de distribution nationalisées en aval. On ne va pas détruire les chaînes de distribution et revenir au petit épicier du quartier, même si je préfère personnellement, et certainement beaucoup d'entre nous, le petit épicier du quartier. Mais on hérite d'une structure. Donc il s'agit de transformer à partir d'une structure du capitalisme moderne. Et c'est ce que j'ai développé, alors c'est dans l'implosion. Je l'ai développé, j'en ai donné l'exemple. J'ai discuté de cet exemple avec des gens de Montpellier, des agronomistes. Ils étaient en général sympathiques à cela. Ils ont plein de détails parce qu'ils connaissent l'agriculture française 100 000 fois mieux que moi, bien sûr. Bon, mais etc. J'en ai discuté dans le cas égyptien avec certaines petites organisations paysannes, mais qui sont très géographiquement très localisées. Hein, c'est dans la région de Mansour où il y a quelque chose de ce genre, et pas ailleurs dans l'ensemble du pays. Bon, donc, voilà, bien.
Alors, deux encore, Janine et Janine.
Oui, moi j'hésite un peu à revenir sur le passé. Je voudrais revenir sur la Russie en 17, mais avant, y compris avant 17. Le parti, la partie bolchevique du Parti social-démocrate avant Khrouchtchev, il s'était prononcé pour la nationalisation des terres.
Oui.
Mais ce qui s'est développé tout de même très dès la fin du 19e siècle, en fait, c'est des émeutes paysannes très importantes, avec y compris dès la fin du 19e siècle l'appropriation de terres.
Oui.
Et du coup, il me semble que le milieu paysan en Russie avant 17, disons, et en particulier après 1905, d'ailleurs après la révolution de 1905, était partagé entre la défense du mir, la défense de la propriété commune dans les villages, qui permettait aux plus pauvres de subvivre, et la volonté de s'approprier, d'être propriétaire. Mais en fait, tout ça, c'était assez récent. Je pense qu'on pouvait, à cette époque-là, en 20 ans, quoi, que les choses étaient, qu'elles étaient contradictoires. Sauf que, tout de même, il faut bien voir que ce qui s'est passé, c'est pas seulement février et octobre 17, c'est immédiatement la guerre civile. Et parce que Lénine, c'était une de ses préoccupations à Lénine. J'ai lu beaucoup de ses textes sur l'alliance nécessaire paysan-ouvrier. Sauf que le temps de la guerre civile, les choses s'étaient à la fois clarifié et opacisé du point de vue de la paysannerie, parce que les paysans ont défendu la révolution de 17, en particulier parce que les nobles essayaient, là où ils étaient, là où la guerre civile leur donnait le pouvoir, ils essayaient de récupérer leurs terres, leurs droits, etc., etc. Et ça, la paysannerie n'en voulait pas. Mais en même temps, cette appropriation de la terre avait structuré leur sentiment qu'il fallait qu'ils s'appropriaient. Et deux ans après, hein, en 21, en gros, c'était une situation difficile. Et je crois que si on ne prend pas en compte la guerre civile, la dureté de la guerre civile, on n'arrive pas à comprendre pourquoi cette question n'a pas pu être réglée après 21 par les bolcheviques.
Ben, je crois. Après,
donc ça, c'était une première question. L'autre, elle est forte sur la Chine. il faut qu'on arrive tout de même à savoir pour quelles raisons actuellement, en Chine actuellement, pour quelles raisons de nombreux des masses paysannes, on est en plein dans une étape d'exode rural en Chine. Alors pour quelles raisons? Parce que en pratique, l'exode rural, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de travail à la campagne et où il n'y a pas assez de quoi faire vivre tous les enfants qui naissent à la campagne. Donc voilà, il faut qu'on apprenne de l'histoire.
Oui, oui. Sinon, bon, Jeannine, en ce qui concerne ce que tu as dit sur la Russie, je n'ai rien à ajouter. Je partage exactement tout ce que tu as dit, c'est-à-dire que le processus d'appropriation privative par les paysans avait commencé à la fin du XIXe siècle, et, au point que Lénine, quand il a, contre le romantisme, etc., dit que c'était trop tard maintenant. Le développement du capitalisme en Russie avait amené déjà l'expansion du sens de la propriété au sein de la paysannerie. Je ne sais pas s'il avait raison ou tort, mais donc nous sommes d'accord. Et c'est vrai que théoriquement le parti bolchevique a été ou la fraction bolchevique dans le parti ouvrier social-démocrate russe était en faveur de la nationalisation des terres. Mais alors que le POSDR, d'une manière générale et particulièrement sa branche bolchevique, était très enraciné dans la classe ouvrière russe, notamment les grandes usines, Poutilov, etc., elle était très absente dans les campagnes. C'était d'autres, c'était les socialistes révolutionnaires, c'est-à-dire les descendants des Narodniks qui avaient leur implantation. Alors ça a posé tout un problème. Bon. En Chine, écoutez, la Chine possède 6% des terres arables de la planète et elle nourrit 22% de la population de la planète. Et elle les nourrit pas mal. Je dis la Chine est un pays pauvre où on voit très peu de très pauvres. On voit des campagnes reculées dans des régions isolées relativement qui rappellent la paysannerie, il n'y a pas tellement longtemps, hein, de l'Europe du 19e siècle. Mais on voit une majorité numérique, probablement aujourd'hui, de paysans qui ont tous l'eau chaude, tous l'électricité, tous le solaire. Tous les villages chinois sont couverts de solaire. Pas seulement pour des raisons écologiques, mais aussi parce que c'est une façon rapide, bon marché, et disséminée dans l'espace, d'avoir des productions de petites quantités d'électricité, pour, etc. Et des constructions solides, etc., etc. Bon. Je compare avec le Brésil. Le Brésil, le rapport entre les terres arables et la population est au Brésil pas deux fois meilleur qu'en Chine, 17 fois meilleur qu'en Chine. 17 fois. Je l'ai calculé avec des amis brésiliens. Et le Brésil est un pays riche où on ne voit que des pauvres. Voilà la différence, hein. Alors, qu'on dise qu'il n'y a pas de différence, que c'est tout la même chose, hein, que la révolution chinoise n'a rien fait, et que c'est le capitalisme, etc., il y a une partie vraie quand on dit que c'est le capitalisme, mais enfin, bon, c'est une partie seulement de la réalité. Dans ces conditions, la Chine a besoin d'un exode rural. Et elle en a besoin aussi parce qu'elle veut construire, et elle construit, une industrie moderne, systématique, autocentrée, à l'échelle gigantesque, dans les provinces intérieures et de l'Ouest. Moderne, autocentrée, articulée, complète, avec les plus hautes technologies, hein,
l'informatique, la balistique, tout ce qu'on veut. Hein. Bon. Et que ça demande une urbanisation à une autre échelle. La Chine a urbanisé la population, la moitié de la population de l'Europe, 200 millions de personnes, en une vingtaine d'années. Et ils sont tous logés. Tous. Ils sont relativement, je dirais, moi j'ai connu la France de 45, les conditions de logement des travailleurs de l'époque ou des étudiants, comme on était, c'était pas fameux. Hein. Et c'était pas mes ancêtres. Hein. Donc, c'est gigantesque. Grâce à la formule petite exploitation, mais pas petite propriété, la Chine est le seul pays qui maîtrise le rythme, maîtrise, à peu près, hein, le rythme de l'exode rural. De sorte que il n'y a pas beaucoup de chômage en ville. Il y a des métiers bizarres et bon, comme on veut, mais d'accord, mais il n'y a pas, c'est pas du tout l'Inde, c'est pas du tout le Brésil, où il y a, dans le cas du Brésil, il y a 11% seulement de population rurale maintenant, il y a donc une urbanisation gigantesque, il y a une émigration gigantesque avec favelas et chômage visible ou moins visible gigantesque. Et c'est la même chose pour l'Égypte ou l'Inde ou n'importe quel des autres pays du monde capitaliste qui n'ont pas fait une révolution dite socialiste. Hein. Bon. Alors, c'est dans cela que je disais ça marche pas mal. Précisément, j'avais en vue la question de l'exode rural, parce qu'avec l'équipe de Wen Kiejun, on en a discuté beaucoup. On discutait. Moi, grâce aux Chinois, parfois chinois, c'était pas l'interprète officiel, etc. C'était le camarade. On discutait avec les jeunes. Comme partout au monde, les jeunes sont attirés par la ville. Hein. Ça ne paraît pas être tout à fait anormal. Mais à condition. Et ils ne trouvent pas la vie à la campagne ignoble. Donc c'est très différent de ce que c'est dans d'autres régions du tiers-monde. Voilà.
La dernière question.
Si ça peut vous permettre de préciser certains points.
C'est qui?
Le développement que vous voulez
faire. Votre nom pour sa vie.
Jean-Paul Chantreau. Oui, je voudrais revenir sur la question de la nature de l'économie chinoise aujourd'hui. À vos yeux, est-ce que c'est une économie mixte ou un capitalisme d'État? Et enfin, est-ce que l'idéal communiste de la révolution chinoise représente encore quelque chose aujourd'hui en Chine? Quelle est cette réalité?
Je ne sais pas comment répondre. Moi, à l'issue de nombreuses discussions, je vais très souvent en Chine et je y reste des mois, hein, je ne parle trois jours. À l'issue de beaucoup de discussions, je pense que le qualificatif le moins mauvais, à mon avis, c'est capitalisme d'État à tendance sociale, je ne dis pas socialiste, c'est-à-dire un capitalisme d'État qui est suffisamment contrôlé par l'État, ou un capitalisme privé, mais qui est suffisamment contrôlé par l'État pour assurer un proche du plein emploi. Et d'autres choses. Les Chinois sont passés, et ils font, en général, quand ils proclament des objectifs, ils les réalisent, plus ou moins. Ils sont passés, je crois, à une assurance maladie sécurité sociale, disons, un peu élémentaire, mais quand même, pour la moitié de la population. Et ils veulent arriver en 10 ans à 80%. Ils y arriveront. Et bon, leur objectif, évidemment, c'est 100%. Alors, ça veut dire que ce capitalisme d'État à tendance sociale pourrait devenir, mais il y a des obstacles, hein, y compris des résistances politiques haut placées, pourrait devenir un socialisme d'État, et la différence est grande, et un socialisme d'État peut devenir, peut être l'amorce d'une socialisation progressive, ou au contraire stagner et dégénérer, cas soviétique. Hein. Bon, donc, l'avenir est ouvert. Et ce qui me rassure un peu, pas beaucoup, mais un peu quand même, c'est qu'on discute de ça en Chine. Et on discute dans le parti.
Bon. Bon. Écoutez, là, il y a deux solutions. On y passe la nuit et demain matin. On va s'arrêter là. Remercier Samir Amin. On a le temps encore d'acheter quelques bouquins de les faire dédicacer. Mais c'est pas pour te rassurer, Samir, mais pour le programme de l'an prochain, on est en train d'injecter une certaine dose de Chine.
Oui.
Voilà.
C'est bien.
Donc tu vas pouvoir m'aider.
Non, il faudrait. C'est très difficile d'inviter des camarades chinois. D'abord parce que les meilleurs ne parlent pas un mot d'une langue étrangère quelconque. Hein. Ceux qui parlent à peu près l'anglais, c'est les plus mauvais en général.
Ils ont été formés aux États-Unis, c'est ça?
C'est très difficile.
Merci en tout cas, Samir. Bon, vous avez les bouquins à votre disposition.